Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
Le Parti libéral du Canada est dans l'embarras depuis quelques jours à cause de déclarations surprenantes de la part de la députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, et aussi de gazouillis embarrassants de la part de la directrice du PLC au Québec. On parle de tout ça avec Alain Raïes, il est député de Richmond-Arthabasca et ministre du cabinet fantôme des conservateurs, responsable des langues officielles. Monsieur Raïes, bonjour.
Bonjour.
Hier, en chambre, vous avez fait référence à ces gazouillis de Mme Chelsea Craig, donc qui est directrice du PLC au Québec, des gazouillis dans lesquels elle affirme que la loi 101 est une loi oppressive. Comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de ces tweets-là qu'on a révélés ici à Cube Radio?
Ben, je vous dirais, c'était troublant quand on entend ça. Surtout, on voit comment l'enjeu de la langue du français au Québec est d'actualité. On entend sans arrêt la ministre Mélanie Joly nous faire comme donneuse de leçons, nous dire que le français est important pour les libéraux. Mais ce que l'on constate, c'est que à l'intérieur de la famille libérale, les propos de la directrice au Québec du Parti libéral du Canada, ainsi que de la députée de Saint-Laurent, Mme Lambropoulos, représentent l'opinion de plusieurs de ces députés du caucus, de leurs membres. C'est comme ce qu'ils croient qu'ils ont dit tout haut, puis là, ben ils se rendent compte que ça leur fait mal. Puis là, ben comme d'habitude, les libéraux, après la pression médiatique que les journalistes, les animateurs font, ben reculent et tentent de nous faire croire que le français est important. Puis les exemples sont flagrants, là. Il n'y a pas d'action concrète depuis 5 ans, depuis qu'ils sont là, qui démontre autre chose que des paroles, mais aucune action concrète pour défendre le français, pour en faire la promotion, pour tenter d'améliorer la situation, pour pas que ce soit qu'on s'éloigne en réalité de notre objectif, là, d'être fier qu'on a 2 langues officielles, fier qu'on puisse parler avec 300 millions de francophones partout dans le monde, tant au niveau culturel qu'économique. Donc, je pense que ça fait une belle démonstration de la situation que l'on vit en ce moment à Ottawa.
Au Canada, il y a une seule province qui est francophone. Une seule. C'est le Québec. C'est quoi le message que ça envoie quand le Parti libéral du Canada nomme à la direction de son parti pour le Québec une anglophone? C'est assez particulier quand même.
C'est assez particulier, puis honnêtement, quand on voit, là, puis je pense que c'est vous-même là, qui avez mis la première, cette information-là sur Twitter, puis que là, quelques instants après, le tweet disparaît. Moi, dans ma carrière politique, là, ça fait déjà plusieurs années, j'ai jamais effacé un tweet encore, là. Puis c'est pas juste une petite erreur, là, c'est carrément un 180 degrés. On voit que le tweet a été écrit par quelqu'un du bureau du premier ministre ou de la ministre, d'après moi, qui ont dû lui rentrer dans la gorge, mais c'est clair que ça ne représente pas son opinion. C'est troublant, sincèrement. Puis j'aurais envie de dire à la ministre, si le français est si important, puis qu'elle veut convaincre les Canadiens puis les Québécois que c'est si important, elle devrait commencer par éduquer son propre caucus autour d'elle. On parle de la députée, dans le cas de la députée de Saint-Laurent, la circonscription voisine. Cette députée, dans son cas, se pose la question s'il y a un déclin du français à Montréal. D'après moi, elle magasine nulle part, elle va jamais au restaurant, elle est toute seule dans son appartement, puis ça fait longtemps qu'elle fait juste du télétravail, là. Donc, je pense que c'est dérangeant, mais ça démontre en même temps cette insensibilité à une réalité que l'on vit. On est là, les derniers Gaulois là, en Amérique du Nord au niveau des francophones. Il y a d'autres communautés un peu partout au pays. Puis eux autres regardent ce qui se passe puis ils sont dérangés parce qu'ils disent si au Québec, le français recule comme ça, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces communautés francophones qui se battent pour avoir accès à des services en français? On le voit en Acadie, on le voit en Alberta, on le voit au Manitoba, on le voit en Ontario. Donc, le message est puissant. Puis le commissaire aux langues officielles fait des recommandations. Ça fait 3 rapports qu'il dépose. Il n'y a aucune des recommandations que la ministre a mis en application. La loi, la modernisation de la loi des langues officielles, il n'y a rien qui se fait malgré tout le travail qui a été fait. On pense à We Charity, là, on peut revenir là-dessus. Ils ont donné un contrat d'1 milliard à un organisme unilingue anglophone. La ministre est autour de la table, Mme Joly. Elle a accepté ça. Elle n'a pas levé la main pour dire ça n'a pas de bon sens.
C'est une excellente question. C'est en effet important de rappeler cette affaire de We Charity. Je veux qu'on revienne sur le cas de Emmanuela Lambropoulos, donc députée de Saint-Laurent, qui, la semaine dernière, alors qu'elle siégeait sur le comité aux langues officielles, a remis en doute donc la véracité ou la réalité du déclin du français au Québec. Elle a posé cette question-là en plus en anglais, ce qui est quand même assez particulier, en disant « je dois le voir pour le croire ». Je veux vous faire écouter, Monsieur Hayes, un extrait d'une entrevue que Madame Lambropoulos a donnée il y a 2 ans à Breakfast Television, et l'animatrice lui demande « pourquoi vous siégez sur le comité des langues officielles? Pourquoi c'est important pour vous? » Voici la réponse de Madame Lambropoulos.
The Prime Minister actually put me on this committee as a promise to the Quebec Community Groups Network, who has been advocating forever. They're kind of the umbrella organization for all English minority groups mm-hmm. in Quebec.
Yeah.
And, you know, they're number one for advocating for Anglophone.
So you're working directly with them.
Alors, Madame Lambropoulos? Ça dit tout. Alors, je vais traduire pour ceux qui sont pas fluentement bilingues. C'est un petit jeu de mots ici. Elle dit que c'est à la demande expresse du premier ministre Justin Trudeau pour répondre à une demande du Quebec Community Group, qui est donc l'organisme qui chapeaute les droits des anglophones au Québec. Et c'est assez singulier parce que Madame Lambropoulos, qui dit, je doute qu'il y ait vraiment un déclin du français au Québec. Elle a aucun problème, elle a aucun doute sur le fait que la minorité anglophone au Québec a besoin d'être défendue. C'est particulier quand même.
C'est particulier, puis ça démontre l'insensibilité de la députée, son manque de connaissances, je dirais presque son incompétence dans le dossier, parce qu'en étant sur un comité, on a une responsabilité, on a des devoirs à faire. C'est pas les études qui manquent, les sondages, les exemples qu'il y a un recul du français à Montréal en plus, parce qu'elle est députée de Montréal, donc si elle serait en région, on pourrait se dire, bon, elle va pas souvent à Montréal, donc mm-hmm. elle n'a pas vraiment le bon pouls de la situation. Mais oui, puis là, elle nous dit clairement que le premier s'est donné un mandat de mm-hmm. défendre seulement une des deux langues dans le comité des deux langues officielles. Donc oui, les anglophones ont certains droits, mais si on fait un lien avec la directrice du parti qui laisse même sous-entendre que les anglophones sont oppressés parce qu'ils peuvent pas faire leur éducation en anglais au Québec. Elle laisse sous-entendre ça dans son tweet. Ben là, je m'excuse, là, mais je pense à l'Université McGill, à l'Université Bishop, à l'Université Concordia, Dawson. Je pense des écoles secondaires anglophones, on en a plein de grande qualité. Je pense que les anglophones ont accès à leurs services. Et la réalité, c'est qu'on a deux langues officielles, mais il n'y en a seulement qu'une qui est en péril, et c'est le français. Donc, je pense que ça, il faut être capable de le nommer. Il faut en être fier que le français fait partie de nos deux langues officielles. Et on doit se battre. On ne peut pas laisser aller les choses. Et venant du Parti libéral du Canada, qui essaie de se faire les grands défenseurs du français, faire la leçon aux conservateurs, et honnêtement, je sais plus quoi dire. Honnêtement, je me dis, je peux pas croire qu'on ne réagisse pas tout le monde en disant c'est inacceptable cette situation.
Oui. Toujours au sujet d'Emmanuela Lambropoulos, je voudrais vous faire écouter un petit extrait que j'ai fait jouer ce matin avec Pierre Nantel. C'était au moment des élections de 2019. Oui. Emmanuela Lambropoulos participait à un débat avec les autres candidats pour les élections, et elle était devant des représentants de la communauté marocaine au Canada. Et voici ce qu'elle avait à dire à propos justement du bilan ou des conservateurs concernant l'immigration. On écoute ça.
Nous ne sommes pas prêts pour un gouvernement qui ignorait complètement l'environnement et qui a eu tellement un horrible, horrifique. They had a completely bad track record when it came to immigration. Je connais des personnes qui se sont présentées comme candidats en 2015 parce qu'ils avaient peur qu'ils allaient être déportés. Alors, je m'excuse, mais les conservateurs ne sont pas le gouvernement que je veux vraiment.
Elle dit qu'il y a des gens en 2015 qui se sont présentés parce qu'ils avaient peur qu'avec les conservateurs, ils allaient être déportés.
Je ne sais pas quoi dire d'autre que rigoler parce que j'aimerais ça qu'elle donne des exemples concrets de la situation. Puis si c'est le cas, ben c'est peut-être parce qu'eux autres en font la promotion comme ça en faisant peur aux gens. On le voit dans toutes leurs interventions à la Chambre des communes. Ils nous relatent encore des choses il y a 10-15 ans, alors que ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ont tous les cordons pour prendre les décisions. C'est pas un problème pour eux autres de dépenser de toute façon. Il n'y a pas de limite financière. Quand c'est pour aider leurs amis, comme pour donner un contrat à un ancien libéral pour acheter des ventilateurs au double du prix, 230 millions, dans une compagnie fictive qui a été construite en 5-6-7 jours, ça, il n'y a pas de problème.
Les blouses d'hôpital. Mais
quand c'est
le temps
de mettre de l'argent, pour défendre le campus Saint-Jean, les francophones en Alberta, ben là, on tape sur la tête du député du premier ministre provincial parce que c'est un conservateur, au lieu de prendre ses responsabilités. Et en passant, pour les gens qui nous écoutent, c'est dans la Constitution, c'est écrit tel quel, que c'est la responsabilité du fédéral de protéger les communautés en situation minoritaire au niveau des deux langues officielles. Ils n'ont pas de problème, les libéraux, pour mettre de l'avant, comme dans le projet qu'on a de la radiodiffusion, en disant qu'il faut s'occuper de... Ce serait qu'on ait du contenu pour les LGBTQ, pour les racisés, pour les autochtones, pour tous les groupes multiethniques qu'on a au pays. Mais il ne faut surtout pas dire que ça prend un minimum de balises pour du contenu francophone. Ça, par exemple, on ne peut pas le mettre dans un projet de loi. Donc, les exemples sont flagrants un peu partout que le français n'est pas une priorité. En réalité, c'est juste un beau discours que le premier ministre aime répéter, puis la ministre Joly, mais elle est toute seule, la ministre Joly. Moi, j'ai pas vu d'autres députés s'offusquer de la situation.
C'est ça qui est bizarre.
Elle est troublée.
Oui, ouais. Elle est abasourdie, elle a dit qu'elle était abasourdie, elle l'a dit à notre collègue Antoine Robitaille à Cube, abasourdie par les propos d'Emmanuela Lambropoulos, mais où sont les autres députés libéraux issus du Québec pour se porter à la défense du français ou pour condamner vertement les propos et de Mme Lambropoulos et de Mme Craig? Ils sont où? On les entend pas, c'est étrange.
Puis on peut aller plus loin. Imaginez si les députés du Québec, avec tous les ministres qui sont dans ce cabinet-là, parce qu'ils sont vraiment les mieux représentés présentement, ne sont pas capables de se lever pour défendre le français, une de nos deux langues officielles. Imaginez les députés qui sont strictement qu'anglophones, comment ils peuvent avoir la même opinion que la députée de Saint-Laurent, Lambropoulos. Je pense que c'est le minimum. Fait que si la ministre n'est même pas capable dans son propre comité de sensibiliser, dans son propre caucus, de sensibiliser les députés de cette réalité-là, parce qu'on le sait qu'il y en a qui pensent comme ça chez les libéraux. On a des exemples qui sont frappants, on les nomme. Et là, le premier ministre, hier, j'ai posé une question simple. Est-ce que la députée de Saint-Laurent peut rester sur le comité des deux langues officielles, connaissant les propos qu'elle a tenus puis son insensibilité face aux faits français au Québec? Est encore là. Il a refusé de répondre à cette question. On a un comité à 3h30 aujourd'hui qui va avoir lieu. Est-ce qu'elle va être présente? Comment est-ce qu'elle pourrait défendre les deux langues officielles dans le comité après ce qu'elle a dit? Puis comment qu'elle met dans l'embarras le gouvernement actuellement des libéraux? Puis si Mme Joly est si sincère en disant qu'elle est troublée, est-ce qu'elle a pris le temps de l'appeler? Moi, ma connaissance, elle n'a pas encore parlé avec la députée. Est-ce qu'elle a pris le temps de parler au premier ministre dans sa réunion au cabinet pour dire « ça n'a aucun bon sens qu'on laisse ce député-là ». Je ne peux pas croire que dans tous les députés libéraux, il n'y en a pas un de mieux placé pour défendre les francophones et les anglophones partout au pays en situation minoritaire.
Vous savez que mon collègue Antoine Robitaille, encore lui, lundi a appelé au bureau de comté de Mme Lambropoulos à Saint-Laurent et qu'il a été accueilli par un message unilingue anglais. Et quand il en a fait état dans une chronique ici à Cube, après ça a été changé puis on est maintenant accueilli par un message en français. Mais c'est quand même assez singulier, une députée libérale au Québec, dans une province francophone, dans une ville francophone, et son message d'accueil était uniquement en anglais.
Tout à fait. Ça démontre l'insensibilité, ça démontre le manque de connaissance de la situation, ça démontre ce que nous, on constate au Parlement canadien, l'opinion que les libéraux ont face aux Français. Pour eux autres, le pays est bilingue et ils ne sont pas conscients qu'une province qui est officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick, Il y en a une qui est francophone, puis les autres sont anglophones. Et on a l'obligation de protéger les communautés en situation minoritaire partout au pays pour les francophones, puis au Québec, oui, pour les anglophones. Puis je pense qu'ils sont quand même très bien desservis. Là, je pense pas qu'ils sont dans la misère en ce moment. Il faut surveiller certains éléments. Le gouvernement provincial met en place des programmes pour les aider dans les régions rurales un peu plus. Mais je pense qu'il faut être capable de dire les vraies choses. Puis dans le discours du trône, ils ont pris la peine de mettre une petite ligne pour dire que le français était prioritaire. Voilà. Il fallait s'en occuper, pas juste avec l'Extérieur du Canada, mais aussi au Québec. Mais là, c'est beau le mettre dans le discours du trône, mais si les propres députés de leur caucus n'en sont pas convaincus, ça donne quoi? Donc, moi, ce que je disais à Mélanie Joly, c'est fais ta job, assieds-toi au caucus des députés libéraux, parce que surtout qu'ils sont d'accord avec toi en premier pour essayer de faire la morale à tous les autres Canadiens, Canadiennes, puis les Québécois, Québécoises, puis les partis d'opposition à la Chambre des communes. Commence par faire le travail dans ta famille, puis après ça, tu feras la leçon aux autres à l'extérieur de la famille libérale.
Vous avez abordé tout à l'heure, Monsieur Reyes, la question de We Charity. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Est-ce qu'on arrive un petit peu plus à faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé? Donnez-nous un petit peu une mise à jour dans le dossier We Charity.
On peut absolument pas avancer pour la simple unique raison que les libéraux ont déchiqueté beaucoup de documents qui font du filibustering qu'on appelle. Là, ils font juste retarder toutes les procédures en comité, en étirant les discours pour empêcher que l'on puisse discuter de l'enjeu. Ce que ça nous démontre, nous, c'est que clairement, ils ont quelque chose à cacher, parce que s'il n'y avait rien à cacher, ils nous permettraient de pouvoir en discuter au comité. Donc, à certains moments, c'est avec le NPD qu'ils ont réussi à bloquer nos tentatives de faire toute la lumière. Dans d'autres cas, ben il y a eu une erreur. D'habitude, le Bloc est avec nous autres là-dessus, mais il y a eu une erreur d'un député qui a voté avec les libéraux. Oui. Par erreur, qui a fait en sorte que ça nous a empêchés d'avancer, parce qu'on est quand même une partie d'opposition majoritaire dans les comités. Mais là, présentement, le NPD, dans plusieurs des cas, bloque toutes les initiatives pour faire toute la lumière, malgré ce qu'ils disent dans l'espace public. Et le Bloc, bon, à cause de l'erreur, on n'a pas pu aller plus loin. Donc, on cherche par toutes les façons de ramener ce sujet-là, parce qu'il y a encore des choses à gratter et à découvrir. Puis bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Un, il y a la question du français que j'ai parlé tantôt, mais la famille libérale de Justin Trudeau qui a été payée grassement à plusieurs moments là, pour des discours, et tout d'un coup, leur organisme, avec tout ce que l'on sait maintenant, qui a reçu près d'un milliard de contrats, qui ont dû renoncer à cause de toute la crise. Puis on voit comment l'organisme est mal en point présentement, pas juste au Canada, mais partout à travers le monde.
Quand vous parlez de filibustering, c'est important d'expliquer aux gens ce que c'est que quand on veut pas, quand on siège sur un comité ou quand on siège au Parlement, puis qu'on veut pas que le sujet soit discuté, bon, on parle de toutes sortes d'autres affaires, et j'ai vu passer une information, et je veux que vous me la confirmiez, j'espère que vous pouvez le faire, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire l'historique du parti Rhinocéros, juste pour passer le temps.
Tout à fait, puis même plus loin que ça, il y a une députée... s'est mis à parler de l'histoire du premier ministre Justin Trudeau jusqu'à son père pendant à peu près 25-30 minutes. Il faut comprendre que quand on entend que la députée parle, le président ne peut pas l'arrêter. Donc là, régulièrement, on doit faire des points d'ordre pour dire que c'est hors contexte. Là, le président demande à la députée de recadrer, puis elle recadre un peu, puis après ça, elle repart sur une dérive de d'autres sujets. Incroyable. Puis ils ne font... Puis je dirais, les gens écouteraient ça, ils diraient ça n'a aucun bon sens, puis je vais même aller plus loin. Dans tout le cynisme que la population a face à la politique, les libéraux ne font que l'amplifier présentement, parce que, je répète, s'ils ont rien à se reprocher, s'ils ont rien à cacher, ben qu'ils déposent des documents et qu'ils permettent aux gens de poser des questions. Il n'y a aucun journaliste, analyste politique, chroniqueur, animateur qui va faire une émission par la suite ou qui va commenter ou faire des reportages s'il n'y a pas de contenu. Donc, s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils mettent ça sur la table, puis personne ne va en parler s'il n'y a rien à cacher. Mais en ce moment, ben, on est convaincu qu'il y a encore beaucoup d'informations, d'irrégularités, de manquements à l'éthique, de conflits d'intérêts dans ce dossier-là, et on cherche à avoir toute la lumière, puis je pense que c'est notre travail d'opposition de le faire.
En tout cas, on veut avoir toute la lumière sur l'affaire We Charity et non pas se faire faire un historique du parti Rhinocéros au Québec. Quand j'ai vu ça, quand même, j'ai souri. Monsieur Reyes, vous êtes député de Richmond-Arthabasca, ministre du cabinet fantôme, responsable, entre autres, du patrimoine canadien et des langues officielles. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Ça fait plaisir, puis bonne journée à tout le monde.
Merci, merci. Bon, écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission, mais avant de vous quitter, je veux absolument vous parler, vous le savez, avec mon mari, on fait une balado. Hein, vous voyez, comme j'utilise le mot français, je pourrais dire podcast. Non, 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 j'insiste. On fait une balado qui s'intitule « Devine qui vient souper ». En temps normal, évidemment, Richard et moi, on reçoit des gens à souper chez nous. Mais vu que c'est interdit, on fait ça dans un studio en suivant, évidemment, toutes les mesures sanitaires, vraiment au doigt et à l'œil. On observe ça de façon très, très, très précautionneuse. Et donc, tout récemment, on a reçu à cette émission Georges Larac et Jean-François Barry, l'animateur. Georges Larac avait un point de vue très intéressant à partager avec nous au sujet du racisme dont il a été l'objet au Québec. On écoute ça.
Le monde, les gens m'appellent nègre à tous les jours.
Nègre à tous les jours?
À tous les jours.
Quand tu joues au hockey ou avant?
Quand je joue au hockey. Dans les arénas, tout le monde m'appelle nègre tout le temps, à un point que si tu écoutais un match de hockey, tu me regardais jouer, tu pensais que c'était mon nom. C'était comme ça tous les jours. Mes parents, ils allaient plus parce que ils voulaient pas que je joue, puis ils voulaient pas voir ça parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont se battre dans les estrades. Puis ils se sont dit, sais-tu quoi, si tu veux y aller, vas-y tout seul.
Les gens, c'est un nègre!
Ils crient un nègre, plein d'affaires comme ça. Puis moi, j'avais 7 ans.
Quand t'as vu le débat récemment autour du mot nègre, justement?
Non, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que à 10 ans, je suis tombé sur l'autobiographie de Jackie Robinson de la collection Grolier. Collection Grolier te montre une collection qui montre plein de...
Benjamin Franklin,
Joan Arc qui ont occupé des affaires incroyables. Puis même, il y en a une de Maurice Richard. Puis Jackie Robinson, c'est un exemple de persévérance. Il y a des images dedans. Puis lui, c'est le premier noir qui a joué au baseball.
Ouais.
Puis il explique
dedans.
À Montréal. Ouais, alors qu'aux États-Unis, il voulait rien savoir
exactement.
De lui.
Puis lui, il explique dans ce livre-là comment il a utilisé le racisme comme motivation pour forcer dans son sport. Quand j'ai lu son livre, j'ai dit, c'est vrai ça que je vais faire. Fait que quand les gens me traitaient de nègre, au lieu de me laisser affecter par ça, je disais, ce processus-là est normal, Jackie est passé par là, faut que je passe par là pour me rendre à l'Union nationale.
Wow.
C'est quand même fou quand t'as 10 ans, t'es un enfant, puis que tu dises que ce que je passe par est normal. C'est pas normal, aucun enfant devrait passer par là.
Mais
moi, c'est ce livre-là qui m'a aidé.
Ça t'a endurci?
Oui, ça m'a endurci, puis ça m'a aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la critique, ça me fait peur.
Passionnant quand même, c'est assez incroyable. On imagine le petit Georges Larac sur ses patins qui arrive sur la patinoire et qui se fait traiter de mots qui commencent par un N constamment. Bref, une rencontre vraiment très intéressante avec Jean-François Barry et Georges Larac. Vous allez retrouver ça à partir d'aujourd'hui. Là, c'est en ligne sur le site de Cube Radio dans la section balado. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde. Remerciements également à Hugo Veilleux à la recherche. Et je vous dis, rendez-vous demain!